Avez-vous déjà entendu le terme jalon? En réalité, ce terme remonte à l'époque de l'Empire romain. Mais ce mot désigne littéralement des repères indiquant la distance par rapport à une destination particulière. Sur nos autoroutes, on les appelle des bornes kilométriques. Mais de nos jours, comme nous sommes nombreux à nous fier à nos GPS, possiblement que nous les ignorons. Nous nous contentons de laisser le GPS nous indiquer où aller, de tourner là où il nous le dit, et la plupart du temps d'arriver à destination. De temps en temps, cela nous conduit à la mauvaise destination. C'est pourquoi nous appelons notre GPS Jézabel. C'est le surnom que nous avons donné à notre GPS. Dans la vie, le mot « jalon » désigne un événement marquant qui ouvre un nouveau chapitre. Un événement susceptible d'influencer votre avenir de manière significative, d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, c'est merveilleux de voir ici la chorale de l'éducation vivante et les étudiants, car eux aussi franchissent un jalon important. Mais ces occasions imposent des choix et constituent des points tournants ou des jalons. Certains d'entre nous qui sont plus âgés, certains nous appellent des dinosaures, repensent à ces événements qui façonnèrent nos vies, pour le meilleur ou pour le pire. Nous pouvons même rêver de remonter dans le temps pour nous dire à nous-mêmes, « Ne fais pas ceci, mais fais plutôt cela. » Mais ce n'est qu'un rêve. Et de toute façon, nous ne nous écouterions probablement même pas. Mais quels sont ces événements majeurs? Eh bien, les remises de diplômes du lycée et de l'université. Nous avions pas mal de diplômés du lycée dans notre région. Il y a aussi des étudiants qui obtiennent leur diplôme universitaire. Ce sont des jalons importants. Un emploi. Qu'il s'agisse de votre premier emploi, d'une mutation ou d'une prise de responsabilité, c'est un jalon. Le mariage est un point tournant. Et ne confondez pas milestone jalon avec un millstone qui est un fardeau. Le mariage est vraiment une merveilleuse bénédiction et c'est un point tournant. Le baptême est un jalon. Le décès d'un membre de la famille ou d'un ami proche, c'est également un jalon. Vous pensez sans doute à des événements que j'ai omis, mais ce sont là quelques-uns des événements majeurs de la vie. Beaucoup d'entre nous ne saisissent pas à quel point ces événements ou ces choix peuvent avoir un impact sur nous pour le reste de notre vie. Vous savez, nous y sommes confrontés. Nous prenons des décisions, mais nous n'anticipons pas toujours qu'est-ce que cela signifiera pour l'avenir et pour l'éternité. Le titre du sermon d'aujourd'hui est donc « Point tournant, choix et conséquences ». Point tournant, choix et conséquences. Comment les points tournants mènent-ils à des choix? Et comment les choix mènent-ils à des conséquences? Permettez-moi de vous donner quelques exemples personnels. Alors que je terminais mes dernières années de lycée, c'était au siècle dernier, cela fait peur d'y penser, mais même M. Herbert Armstrong en riait. Il est né, si je me souviens bien, en 1892. Et, vous savez, la technologie commençait à faire son apparition, et encore une fois, ce que l'on appelait les voitures sans chevaux ou les automobiles faisaient leur apparition. Il a raconté à plusieurs reprises que son père lui avait dit « Écoute, une voiture sans chevaux !» Et M. Armstrong, comme enfant, était tellement enthousiaste qu'il se précipitait à la fenêtre et il a vu une charrette tirée par des ânes. C'était bien une voiture sans chevaux, mais pas celle à laquelle M. Armstrong pensait. Il est né il y a 2 siècles. Moi, je ne suis qu'un novice du siècle dernier. Mais certains d'entre vous rient, mais vous aussi, vous êtes né au siècle dernier. Au lycée, j'avais des amitiés et des relations, comme la plupart d'entre nous, qui auraient pu prendre toutes sortes de directions. Mes relations amoureuses auraient pu m'emmener dans une direction bien différente de celle qu'elles ont prise. Peut-être auraient-elles pu déboucher sur un mariage plus tardif, qui n'aurait peut-être pas été une bonne chose, ou peut-être que tout dépend, mais ça aurait pris une direction ou une autre. Après ma graduation du lycée, je ne pouvais pas y rester indéfiniment. J'avais d'assez bonnes notes, donc je ne pouvais pas redoubler, vous voyez, et continuer à aller au lycée, ça ne fonctionne pas comme ça. La remise des diplômes approchait, donc que ferais-je ensuite? Et j'ai l'impression que beaucoup de diplômés sont confrontés à ce dilemme. Que dois-je faire ensuite? La question qui se pose donc est la suivante. Quelles sont mes options? Est-ce que je continue à traîner avec mes amis et à sortir avec des filles? Ce serait une option, une possibilité. Rester chez moi pendant un moment et poursuivre en quelque sorte une prolongation du lycée? Allais-je aller à l'université? Si oui, laquelle? Allais-je me lancer dans un emploi à temps plein? Et si j'allais à l'université, serais-je conscrit pour l'armée? Ou valait-il mieux m'engager d'abord dans l'armée, puis poursuivre des études supérieures? Est-ce que je resterai dans l'église où j'avais grandi? Parce que je n'ai pas grandi au sein de l'église du Dieu vivant ou l'église de Dieu. À l'époque, il s'agissait de la Radio Church of God. Mais est-ce que je resterai dans l'église protestante à laquelle j'étais habitué? Ou est-ce que je ferai quelque chose de différent? En fait, j'ai reçu l'appel vers l'âge de 15 ans, 15 ans et demi. J'écoutais donc l'émission anglaise Tomorrow's World. Ou The World Tomorrow. La question était donc, allais-je continuer à écouter cette émission de radio? Je recevais de la documentation. Allais-je continuer à en recevoir? Allais-je finir par suivre le mode de vie que j'apprenais? Ou allais-je simplement retourner dans mon église protestante? Allais-je m'inscrire à nouveau dans une université en Californie ou dans une autre université californienne? Il y avait des articles dans La Pure Vérité en anglais sur l'ambassadeur collège. Allais-je m'y inscrire? Et si je m'y inscrivais, pourquoi? Encore une fois, des choix. Et pour certains de ces choix, je ne disposais pas d'informations très précises. Beaucoup de décisions étaient donc émotionnelles. Souvent, il s'agissait en quelque sorte de deviner ce que Dieu pouvait avoir en tête. Ce furent donc en quelque sorte des jalons décisifs. Disons-le ainsi, ou des points tournants. Puis les choix se sont présentés. Et comment allais-je y répondre? Comment y répondriez-vous? Au cours des années, je me suis donc demandé en quoi ma vie aurait été différente selon les chemins que j'aurais pu emprunter. Et si j'avais continué à fréquenter mes amis du quartier et à sortir avec des filles que je connaissais au lycée plutôt que de passer du temps avec mes frères et sœurs en Christ? Il ne s'agit donc pas de vivre dans le passé, il s'agit encore une fois de tirer véritablement les leçons du passé. Que se serait-il passé? En quoi ma vie aurait-elle été différente si j'avais envisagé ces choix? Et si j'avais opté pour un emploi en usine, qu'on m'avait proposé, plutôt que de poursuivre mes études? Si j'avais choisi cette voie, j'aurais pu avoir une voiture et peut-être quelques loisirs supplémentaires, contrairement à ce qui aurait été le cas si j'étais allé à l'université. Et si j'avais rejoint l'armée et combattu pendant une guerre, aurais-je survécu? Aurais-je été blessé? Aurais-je développé des problèmes psychologiques ou émotionnels? Que se serait-il passé? Aurais-je fini par m'en sortir très bien, avec des avantages sociaux, une formation, etc.? Vous savez, nous ne saurons jamais. Et si j'étais resté dans l'église protestante où j'avais été baptisé quand j'étais jeune? Bon, je dirais que j'ai été immergé. mais sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Mais si j'étais resté dans cette congrégation plutôt que d'étudier avec l'Église de Dieu, quel aurait été mon mode de vie? Quelle aurait été ma relation avec Dieu? Et si j'avais choisi une autre université qu'ambassadeur, en quoi ma vie aurait-elle été radicalement différente? Mais voilà ces réflexions sur ces choix que nous faisons et les chemins que nous aurions pu emprunter à partir de ces choix. Mes choix ont eu des conséquences. Ce que j'ai choisi ou n'ai pas choisi a façonné ma vie future. Je m'adresse à vous tous, j'en connais tant parmi vous. Certains remontent à l'époque de l'ambassadeur collège, d'autres proviennent des congrégations que nous avons servies, certains je connais personnellement, c'est une joie de les revoir, ils vivent aux quatre coins du monde, mais nous les retrouvons au Conseil des Anciens au moins deux fois par an, hein? Au moins en personne. Encore une fois, c'est une telle joie de se retrouver. Il faut donc en tenir compte. Cela a façonné ma vie. Cela façonne les amitiés. Cela façonne le mariage. Cela façonne la famille. Cela façonne tant de choses. Il y a donc d'importantes leçons de la vie que nous devons tous prendre en considération. Je jette un regard rétrospectif depuis mon point de vue. Certains d'entre vous qui êtes jeunes doivent regarder vers l'avenir et réfléchir à ce dont nous parlons. Mais il n'y a d'ailleurs aucune exception, aucune exception. Nous avons tous des jalons. Nous sommes tous confrontés à des choix. Nous devons tous alors réfléchir à ce vers quoi ces choix nous mènent. Et ensuite, quels en sont les résultats? Quels sont les résultats finaux, les conséquences? Reportons-nous à l'Ecclésiaste, au chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3. Le livre de l'Ecclésiaste est un livre incroyable, car il examine véritablement la vie de la jeunesse à la vieillesse, de la naissance à la mort. Il est exhaustif. Et si vous regardez la Bible, elle est un peu comme ça. Quand vous lisez la Bible, vous lisez des récits d'adolescents, des récits de jeunes hommes, de jeunes femmes, marqués par des grands points tournants. Et que leur est-il arrivé? À quoi étaient-ils confrontés? Quelles épreuves ont-ils rencontrées? Et quelles ont été les conséquences de ces épreuves? Nous avons ainsi une merveilleuse histoire de la vie. Mais ici, dans Ecclésiaste 3, qui a même été mis en musique, ce qui en fait un passage très marquant de la Bible. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Et à ce titre, je peux dire, il y a un jalon, un point tournant pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un immense point tournant, non seulement pour le bébé, mais aussi pour les parents. C'est énorme. Et un temps pour mourir. C'est également un jalon ayant des conséquences sur la vie, qui est extrêmement chargé sur le plan émotionnel, mental et physique, et à presque tous les égards. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ainsi, ceux qui sont agriculteurs comprennent que ce sont des moments importants de l'année. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a donc toutes sortes de saisons, de points tournants importants, de moments différents. Et chacun d'entre nous, parfois, on ne se rend pas compte sur le moment que ce sont des points tournants, mais ce l'est. Et donc, l'on y fait face. Mais encore une fois, on n'a pas le choix quant au moment où l'on vit et ce qui nous arrive. Comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous sont, si vous voulez nous appeler de vieilles personnes, vous savez, des personnes qui vivent longtemps. C'est peut-être un terme plus approprié. Des personnes qui ont une longue vie. Et nous pouvons regarder en arrière et constater que nous avons eu de merveilleuses opportunités, certaines que nous n'avions pas prévues. Et je sais que c'était mon cas en ce qui concerne le baptême et le fait de faire partie du corps même du Christ. Je n'avais pas anticipé tous les rebondissements, les hauts et les bas que la vie allait m'apporter. Mais avec le recul, je ne regrette pas cette vocation. Je ne regrette pas ce que Dieu nous a permis de vivre et de devenir. Mais dans Ecclésiaste 3, les versets 1 à 8, ces écrits nous concernent tous. Et certains vivent des points tournants que d'autres ne vivent pas. Il y a des événements physiques et spirituels qui peuvent avoir un impact sur nos vies. Parmi ceux-ci, pour reprendre certains aspects évoqués ici dans l'Ecclésiaste, il y a un moment où l'enfance laisse place à l'adolescence. En d'autres termes, on entre dans la puberté. C'est un jalon de l'enfance à l'adolescence, puis à un jeune adulte. Vous savez, ce sont des moments très importants. C'est une période où l'on passe d'une dépendance totale à un début d'autonomie. Et vous savez, c'est énorme. Et je pense que nous, en tant que parents et adultes, devons encore une fois comprendre qu'il s'agit d'une période cruciale, d'une période très importante pour les jeunes. Nous savons également que notre travail peut bouleverser notre vie, car il peut nous obliger à acquérir de nouvelles compétences. Il peut nous imposer des horaires peu pratiques. Cela peut signifier que vous devez voyager davantage, ou que vous devrez peut-être déménager dans des endroits où vous n'avez pas vraiment envie d'aller. Mais le travail est important, car il vous permet de subvenir à vos besoins. Le travail, c'est bien, mais parfois nous n'avons pas l'emploi de nos rêves, et il faut donc l'accepter. Ce sont là, encore une fois, des jalons décisifs. Le mariage est une merveilleuse bénédiction, vraiment. Mais c'est aussi un jalon, car nous ne pouvons plus penser uniquement à nous-mêmes et faire ce qui nous plaît. Nous devons désormais apprendre à aimer et à vivre en couple. Et, comme dans la vie, il arrive parfois que l'on soit facile à vivre et parfois que l'on soit difficile à vivre. Je ne pense pas qu'il y ait d'exception à cela. Mais nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous apprenons à aimer, nous apprenons à nous accepter, à collaborer et à prier l'un pour l'autre. Si Dieu nous bénit en nous donnant des enfants, nous devons alors sacrifier bon nombre de nos propres habitudes et désirs pour apprendre à les aimer et à les élever. Et les tout petits bébés, ils ne se rendent pas compte que leur maman sacrifie son sommeil et leur papa, vous savez. Tout leur emploi du temps est en quelque sorte bouleversé. Si vous vous mariez et que vous n'avez pas d'enfants, c'est aussi un point tournant. C'est un défi difficile de la vie. Et ce n'est pas facile. Être appelé à faire partie du corps du Christ, c'est énorme. Cela change tout. Si vous n'étiez pas dans l'Église de Dieu, mais que vous étiez agnostique, athée, protestant, catholique ou quoi que ce soit d'autre, vous découvrez alors que nous commençons à observer des jours saints que nous n'observions pas auparavant, et nous cessons d'observer ces jours que nous pensions chrétiens, mais qui ne l'étaient pas. Et lorsque vous comprenez ça, si vous faisiez ces choses, cela affecte la famille. qui n'a pas été appelé au sein de l'Église de Dieu. Il y a beaucoup de changements à apporter. Dieu commence à transformer nos esprits et nos cœurs par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Nous nous tournons donc vers la Bible et la parole de Dieu pour y trouver des orientations et des instructions, plutôt que de nous contenter de faire ce que nous voulons. Cela change. Notre raison d'être dans la vie change. Nos vies changent. Ce que nous pratiquons, ce que nous mangeons, comment nous dépensons notre argent, comment nous occupons notre temps, voire comment et ce que nous pensons, ainsi que la manière dont nous interagissons avec les autres et dont nous les traitons. Alors ce sont des points tournants décisifs de la vie. Et pour certains qui ont grandi au sein de l'Église de Dieu, et je suis très reconnaissant que tant de jeunes aient eu cette bénédiction, il y a vraiment un jalon important, car il arrive un moment dans la vie où l'on doit se poser la question « Dois-je continuer? » Est-ce vraiment la voie de vie de Dieu? Ou s'agit-il simplement de la religion de mes parents? Même à ce stade, il y a donc des décisions à prendre. Et dois-je me faire baptiser? Suis-je prêt? Ce sont là des questions que même ceux qui ont grandi au sein de l'Église doivent comprendre et affronter. Le décès d'un parent, d'un conjoint ou d'un enfant. Et c'est peut-être la perte d'un enfant qui est la situation la plus douloureuse, qui a un impact sur notre vie. Cela change notre vie. Ce sont là des questions qui se posent. Ce que nous choisissons de faire, ou la manière dont nous choisissons de faire face à ces points tournants, ont des impacts. Ils ont des conséquences. Dieu nous a donné le libre arbitre moral. Qu'est-ce que cela signifie? M. Armstrong en parlait. M. Meredith en parlait. Vous le verrez dans nos publications. Je pense que M. Weston en a également parlé. Eh bien, cela signifie simplement que nous avons la capacité de choisir et d'assumer ensuite la responsabilité de ces choix. Que nous avons la compréhension du bien et du mal, ainsi que de leurs conséquences. Et Dieu nous permet de choisir. Autrement dit, Dieu ne nous contraint pas dans nos choix. Et ce libre arbitre, cette capacité est nécessaire pour que Dieu puisse façonner en nous son caractère sain et juste. C'est donc une bonne chose. Mais nous devons nous poser la question suivante. Comment Dieu voudrait-il que nous choisissions? Alors que nous avons déjà parlé des jalons, des choix, des différents chemins que nous pourrions emprunter, reportons-nous à Proverbe 19. Proverbe 19 et le verset 21. Et le verset 21. Il n'y a pas d'horloge ici, donc j'imagine que nous savons instinctivement quand nous devons arrêter. Eh bien, je pense que nous avons largement de temps, mais dans Proverbe 19, verset 21, s'il vous plaît. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ou dans le cœur d'une femme. Alors, mesdames, ne croyez pas que simplement parce qu'il est question de l'homme ici, cela ne s'applique pas à vous. Cela s'applique aussi à vous. Mais il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et c'est de ce point que nous partons. Dieu doit être au cœur de tout cela. Il y a de nombreux choix. Et pour certains d'entre nous, ces projets s'entrechoquent un peu comme dans un distributeur de gomme à mâcher. Vous savez, juste des idées ici et là. Et nous devons prendre des décisions, parfois très futiles, parfois très sérieuses. Nous pouvons même avoir, vous savez, une idée de ce que nous voulons faire ici ou là. Mais la réalité, c'est que nous avons réellement besoin du conseil du Seigneur, de la pensée de Dieu, de son caractère, de sa direction, car c'est vraiment cela qui fera la différence. Cela nous aide à tracer et à choisir le bon chemin. Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Le livre des Proverbes, tout comme l'Ecclésiaste, est un livre fascinant. Il regorge d'enseignements et de conseils. Mais il s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux personnes âgées, aux hommes comme aux femmes, dans toutes sortes de situations différentes. C'est un livre très, très instructif. Proverbe 16, verset 3. Le conseil est le suivant. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Il y a des moments dans la vie où nos émotions nous font obstacle. Et parfois, ce que nous devons faire, c'est en connaissant et en comprenant les principes, les lois et les voies de Dieu, nous accomplissons l'œuvre. Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Ainsi, nos pensées et nos émotions s'aligneront. C'est difficile à faire, car parfois nos émotions nous disent « Je veux faire ceci ». Et pourtant, la parole de Dieu dit « Ce n'est pas la bonne voie. Voici ce que tu dois faire ». Et au lieu de dire « D'accord, je vais attendre que mes émotions soient d'accord », non, faites simplement ce que Dieu vous demande de faire. Alors, tôt ou tard, que ce soit rapidement ou peut-être un peu plus tard, les pensées et les émotions s'harmoniseront. Et vous regarderez en arrière et vous direz « Je suis tellement content ou contente d'avoir agi comme il le fallait. » Donc, Dieu doit être impliqué si nous voulons faire des choix judicieux, aborder les points tournants de la bonne manière et suivre un chemin qui mène aux bénédictions. Proverbe 3. Proverbe 3 et le verset 5. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dieu est l'ancien des jours, vous savez. Il existait avant même cet univers physique. Avant que la vie ne soit créée sur le plan physique, il existait avant les anges. Nous pouvons donc faire confiance à Dieu. Il a tout vu. Il voit l'avenir. Nous pouvons donc nous fier à son expérience et à ses conseils. Notre propre intelligence est vraiment limitée. Et parfois, elle est tout simplement erronée. Nous ne nous appuyons donc pas sur elle. Cela ne signifie pas que nous n'en tenons pas compte, mais nous ne nous y fions pas. Nous ne lui faisons pas entièrement confiance. Nous devons l'évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà ce qu'est la foi, et voilà ce qu'est faire confiance à Dieu. Vous savez, on ne laisse pas son intelligence à la porte, mais on utilise ce que Dieu nous a donné tout en laissant Dieu la guider à travers ses principes et ses desseins. Proverbe 16. Je suis en train de parcourir le livre des Proverbes et j'ai un commentaire, celui de Sun Sino, sur les Proverbes, qui est très intéressant. Il est utile à bien des égards. Mais ce qui est intéressant, c'est que presque chaque proverbe, ces proverbes ont été étudiés par des rabbins et des érudits auxquels ce Sun Sino fait référence. Et on a l'impression qu'ils étudient un proverbe pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours. Il y a telle possibilité et telle autre. Ce tel mot signifie ceci, mais il pourrait aussi signifier cela. Et puis ils arrivent en quelque sorte à une conclusion générale. Or, le livre des Proverbes n'a pas besoin d'être aussi compliqué. Avec l'Esprit de Dieu, nous commençons à comprendre les principes et ce qu'ils signifient réellement. Revenons donc à Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Ce que nous disons en substance, c'est qu'à chaque jalon, nous devons nous préparer. Que faisons-nous ensuite? Que faisons-nous maintenant? Mais en réalité, nous cherchons Dieu pour qu'il nous donne la bonne réponse, la bonne direction, dans toutes les situations de la vie, dans tous les domaines de la vie. Nous commençons par obtenir notre baccalauréat, puis nous nous préparons. Que faisons-nous ensuite? C'est pour vous donner un exemple. Ensuite, nous cherchons Dieu. Que voudrait-il que nous fassions? J'ai souvent évoqué le fait que lorsque j'ai pris cette décision, je pense que Dieu me guidait vers l'ambassadeur collège. Mais je n'avais jamais rencontré de ministre. Je n'avais jamais rencontré personne de l'Église de Dieu à cette époque. Je ne connaissais cette Église que par les émissions de radio, la revue La Pure Vérité en anglais, ainsi que certains cours par correspondance et les brochures. J'ai donc écrit une lettre au siège central pour demander « Dois-je d'abord m'inscrire en l'ambassadeur collège ou dois-je d'abord m'engager dans l'armée de l'air? » Si je vais au collège, je m'engagerai dans l'armée de l'air après. Ou si je m'engage dans l'armée de l'air maintenant, j'irai en ambassadeur collège après. Et dans leur sagesse, ils m'ont simplement répondu « Que pensez-vous que Jésus-Christ voudrait que vous fassiez? » Et ils m'ont donc renvoyé la question. J'ai donc prié à ce sujet et je me suis dit « D'accord. Je vais d'abord aller à l'ambassadeur collège, ensuite je m'engagerai dans l'armée de l'air, car j'aurais aimé beaucoup apprendre à piloter. » Voilà ce que je pensais à l'époque. Et au verset 9, on lit à nouveau « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Lorsque nous sommes appelés par Dieu en particulier, nous avons souvent nos propres projets humains. Et ces projets ne sont pas mauvais la plupart du temps. Parfois, ils le sont, mais la plupart du temps, ils ne le sont pas. Cela signifie simplement qu'il existe de nombreux chemins à suivre. Lequel devons-nous emprunter à ce moment précis? Voici cette opportunité. Voilà cette possibilité d'emploi. Voici cet endroit où ce serait peut-être agréable de s'installer et de vivre. Voici cette opportunité d'éducation. Voici ceci, voici cela. Mais nous voulons vraiment que Dieu guide nos actions concrètes. Et j'aimerais citer un autre proverbe ici, Proverbe 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Ils partent de travers. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Et certains des résultats les plus problématiques surviennent lorsque des individus refusent les conseils. Vous savez, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes engendrés pour faire partie de la famille de Dieu. Mais cela devra attendre la résurrection. Mais dans une multitude de conseillers, nous nous voyons les uns les autres. En quoi réside la sagesse? C'est ce qui se passe au conseil des anciens. Nous avons des individus, ils ont leur propre parcours, leurs expériences, leur vie. Les moments où ils ont été confrontés à des difficultés et où ils les ont surmontées. Et ils tirent donc des leçons, et tout cela alimente les discussions concernant certaines questions. Il serait si facile de dire « J'ai cette idée géniale, mais je ne veux pas aller à ce conseil. Je n'assisterai pas à ce conseil parce qu'il pourrait me persuader que c'est une erreur. » Et nous ne voulons pas cela. Nous voulons faire ce que nous voulons faire. Nous voulons croire ce que nous voulons croire. C'est donc très simple. Il suffit de l'éviter. Ne lisons pas les brochures. Il est arrivé que des gens aient des idées différentes, vraiment différentes, sur certaines doctrines, prophéties, événements historiques ou autres. Et est-ce qu'ils se reportent aux brochures? Non, ils se disent plutôt « Eh bien non, mon idée est enfin meilleure. » Ils ne vérifient pas leurs propres idées, ils ne cherchent pas vraiment à obtenir des conseils ni à examiner les autres options. Nous arrivons donc aux conséquences. Les conséquences. Où vos choix vous mèneront-ils? C'est là que ça devient passionnant. Et on pourrait dire « C'est un peu la méditation. » C'est un peu cela, en effet. En réalité, cela consiste à se dire, voici ce choix, voici les possibilités ou les options. Maintenant, réfléchissons. Si je choisis cette voie, que va-t-il probablement se passer? Si je choisis cette autre voie, que va-t-il probablement se passer? Et soyons réalistes. Ne pensez pas en termes de, voici le résultat de cette fantaisie. Je fais ça dans mon esprit, ça va marcher. Soyez réaliste. Quelles seront réellement les conséquences? Reportons-nous à Ecclésiaste. Ecclésiaste 12 et le verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a certains choix ou certaines conséquences qui, si vous êtes jeune, vous devez y réfléchir mûrement. De même, si vous êtes âgé, vous devez réfléchir à certaines choses. Mais dans Ecclésiaste 12, verset 1, il est dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, ou vous, jeune femme, dans votre jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ce n'est pas une mauvaise chose. L'Ecclésiaste veut en réalité dire, vous devez comprendre qu'il y aura des conséquences. Et c'est une joie d'être jeune au sein de l'Église de Dieu. Je vous le garantis, c'est une expérience merveilleuse. Et j'espère que vous ne la comparerez jamais à ce qu'aurait pu être la vie dans le monde. Le monde donne l'impression que tout est formidable. Mais la réalité n'est pas toujours ainsi. C'est peut-être même très rarement le cas. Et donc, si vous y réfléchissez bien, certes, il y a beaucoup de raisons d'être heureux, comme la famille et toutes ces différentes choses. Mais quoi que vous fassiez, quel que soit le choix que vous fassiez, souvenez-vous qu'il y a un jugement, il y a une conséquence. Et ainsi, le verset suivant dit, verset 2, « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Du point de vue d'un adulte, du point de vue d'une personne âgée, l'enfance et la jeunesse passent assez vite. Cela semble durer longtemps quand on les vit, mais quand on atteint 60, 70 ou 80 ans, et pour ceux qui ont peut-être 90 ans ou plus, je n'en suis pas là encore d'ailleurs, certainement pas dans les 90, on se rend compte que le temps passe assez vite. Et pourtant, ce qui se passe pendant la jeunesse et l'enfance, les conséquences peuvent perdurer jusqu'à 60, 70, 80 et même 90 ans. Ce qui se passe à ce moment-là peut influencer le reste de votre vie. Mais on ne le voit pas ainsi. Et même si l'on subit des conséquences, on se dit « ça va aller, ça va s'améliorer ». Mais combien de fois dans le cadre de notre ministère avons-nous conseillé, pleuré, travaillé aux côtés de personnes qui avaient fait certains choix ou vécu certaines choses lorsqu'elles étaient jeunes? Et nous essayons, même à un âge avancé, de les aider à surmonter ces conséquences, à rester sur la bonne voie, à vivre leur vie du mieux qu'elles peuvent. C'est pourquoi l'Ecclésiaste est un livre très important à considérer. Un passage qui a d'ailleurs été répété à maintes reprises lorsque je commençais tout juste à découvrir l'Église. Il a en effet été mentionné de très nombreuses fois. C'est le Proverbe 14, verset 12. Et je soupçonne que nous l'avons probablement presque tous mémorisé. Je peux le citer de mémoire. Mais reportons-nous à Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme. » Et c'est là le problème. Elle semble vraiment juste. Elle semble vraiment être la chose à faire, la bonne décision à prendre, le chemin à suivre. Elle semble vraiment juste, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et je me souviens d'avoir lu ce proverbe, en avoir entendu parler, dès mes débuts au sein de l'Église de Dieu. Et c'est tellement, tellement vrai. Le problème, c'est que cela semble juste, Maintenant, si quelqu'un semble mauvais, c'est peut-être plus facile, bien sûr. On peut toujours être rebelle et s'engager sur la mauvaise voie. Mais si l'on se dit vraiment « oui, c'est mal », cela devrait nous mettre en garde. Mais si cela semble juste, c'est là que réside la difficulté. Si cela nous semble juste, mais c'est en réalité tout à fait mauvais, la conséquence reste la même. Cela nous mènera quand même sur une mauvaise voie. Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Paul écrit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Maintenant, ne négligez pas la lecture de la Bible, et pas seulement une ou deux fois, mais au fil de votre vie, lisez-la en entier, car, encore une fois, elle vous rappelle, elle nous rappelle. Voici des personnes bien réelles. Voici l'histoire de leur vie, ou des pans de leur vie. Et nous pouvons remonter dans le temps. Quelles décisions Adam et Ève ont-ils prises? Que s'est-il passé? Caïn et Abel, que s'est-il passé? Quelle en a été la conséquence? Ou bien remonter jusqu'à Abraham et Sarah? Ils ont pris de bonnes décisions, mais ils ont aussi pris des décisions dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Nous en tirons des leçons. Pour la société moderne, où les relations sexuelles sont tellement déséquilibrées, faussées ou déviantes, on peut alors remonter au roi David. C'était un roi. Que s'est-il passé lorsqu'il n'a pas agi comme il le fallait? S'en est-il tiré? Tout s'est-il bien passé? Pas vraiment. Pas vraiment. Lisez l'histoire. Lisons-la non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. On y trouve des récits sur des personnes. Lisez le livre des Actes, des personnes qui ont bien agi, d'autres qui n'ont pas bien agi, et les conséquences de leurs actes. On apprend donc énormément en lisant les Écritures. C'est très, très important. Mais lisez-les, et parfois je sais qu'on a juste envie de les parcourir. Mais si vous les lisez au moins une fois de cette manière, je veux voir les jalons, les événements. Je veux voir quels ont été leurs choix. Je veux voir ensuite ce qu'ils ont fait de ces choix, quelle voie ils ont emprunté. Et je veux voir quelle a été la conséquence ultime, le résultat final. Vous allez apprendre beaucoup. Et vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même. Et cela peut d'ailleurs s'avérer très utile. Nous pourrons ainsi nous dire, « Bon, je ne veux vraiment pas ce résultat final. » Et vous commencerez peut-être à repenser certains de vos choix. Psaume 73. Psaume 73 et le verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël. Nous avons entendu dans la sermonnette les promesses que Dieu a faites, l'alliance. Oui, Dieu est bon pour Israël. Mais notez la suite. Pour ceux qui ont le cœur pur. Or, il s'agit là d'un psaume d'Asaph, mais il évoque ce problème très courant. « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » C'est d'ailleurs un psaume très important. Et vous repensez à votre vie. Je repense à la mienne. Et puis je vois des personnes qui ont peut-être pris des décisions différentes. Elles ont plus d'argent. Elles ont de plus belles maisons. Elles ont des métiers plus passionnants. Elles ont pris leur retraite plus tôt? Peut-être ont-elles eu deux ou trois maris ou deux ou trois épouses? Et le dernier est un mari de prestige, une épouse de prestige? Et vous vous dites, « Wow, regardez tout cela! Quelle vie magnifique! » Et le verset 4, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » On dirait qu'ils ne cessent de vivre encore et encore. Et bien sûr, nous sommes très sélectifs dans la façon dont nous percevons tout cela. Ils n'ont pas de cancer, ils n'ont pas de maladie cardiaque. Ils font encore du ski alors qu'ils ont 80 ou 90 ans. Ils ont leur yacht et ils font tous ces voyages autour du monde. Et les voilà à un âge avancé. Et même quand leur santé commence à décliner, on s'occupe d'eux. Et ils restent en pleine forme. En fait, ils ont l'air plutôt en forme malgré leur âge. Et encore une fois, je l'ai répété au personnel ici, sur mes photos, ajoutez simplement une petite mention précisant que cette personne a peut-être meilleure mine dans la réalité, car les photos me représentent vraiment, vraiment mal à mon point de vue. Mais c'est probablement à cela que je ressemble vraiment. Encore une fois, quand on regarde ces autres personnes, leur force est inébranlable. Elles ont l'air en pleine forme. Verset 5. Elles n'ont aucune part aux souffrances humaines. C'est ce qu'il semble. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes ou les autres femmes. C'est ce qu'il semble. Alors, on compare. Mais moi, je suis ici, dans l'Église de Dieu. J'ai des décisions à prendre et il y a des problèmes. Et vous rendez-vous compte qu'il y a des gens dans l'Église de Dieu qui ne sont pas parfaits? Ils font des erreurs. Et certains peuvent être agaçants. Et ainsi de suite. On se compare en quelque sorte, et oh là là, on regarde le monde et ces gens-là sont tellement meilleurs. C'est l'apparence. Ce n'est généralement pas la réalité. Le psalmiste continue au verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Et donc, on regarde cela et l'on commence à se dire, « c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. » Verset 8. « Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. » Il ne leur arrive rien, et ils ne sont pas foudroyés. Vous savez, un tremblement de terre ne les engloutit pas. Encore une fois, nous ne parlons pas des exemples bibliques. Nous parlons de ce que nous voyons dans la vie. Verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Il ne semble pas être soumis au jugement de la même manière. Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et quelle est la première réaction émotionnelle? C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Or, j'ai appris le mode de vie de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, j'ai essayé de vivre selon les lois de Dieu. Même lorsque cela n'a pas été facile. Je me suis repenti, mais la vie reste difficile, reste dure. Il y a des points tournants qui sont douloureux. Verset 13. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et c'est parfois ainsi que nous pourrions penser lorsque nous avons choisi un mode de vie juste. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux. Notez la suite. Voici, je trahirais la race de tes enfants. Il dit en substance que cela n'aurait pas été correct. Je ne voyais pas les choses correctement, comme il se doit. Verset 16. Quand j'y réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'aie pris garde au sort final des méchants. Et c'est là toute la perspective. Lorsque nous réfléchissons en termes de quelle est la conséquence ultime, lorsque nous nous tournons vers Dieu et comprenons son plan de salut, nous réalisons quel est le dénouement pour ceux qui sont fidèles au mode de vie de Dieu, qui laissent l'Esprit de Dieu les diriger, les guider, et dont l'esprit et les émotions suivent ce mode de vie. Quel est le dénouement? La résurrection. Faire partie de la famille de Dieu. Régner avec le Christ. Plus aucune souffrance, plus aucune mort. L'abondance de tout ce que Dieu a à nous offrir. Comment peut-on jamais comparer cela à ce qui semble être un mode de vie sans souffrance, consistant à ne pas obéir à Dieu, ce qui, soit dit en passant, est une fausse vision. Et puis le psalmiste dit, « Alors j'ai compris leur sort. » Verset 18. « Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. » C'est ce qu'ils voyaient. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. La conséquence n'est pas réjouissante. Quand on lit Matthieu 24, aucune chair ne serait épargnée. C'est là la conséquence ultime. Cela semble formidable. Mais quand on réalise que le résultat final est que, s'ils parviennent à leur fin et vivent à leur manière, dans la connaissance, dans leur comportement, dans leur technologie, etc., à terme, aucune chair ne survivrait. La mort serait la fin. L'extinction, l'extermination, ce serait la fin. Nos conséquences sont bien différentes. Sauf qu'à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Ainsi, cela a non seulement un impact sur nos propres vies, mais aussi sur le plan de Dieu pour le millénium et au-delà. Quand on aborde le sujet du baptême, le chapitre 14 de Luc est très intéressant. Car il y a un lien avec ce que l'on appelle les jalons, les choix et les conséquences. Dans Luc 14. Et je doute fort que quiconque, ayant été baptisé, n'a pas vécu cela. Je serais surpris. Cela fait vraiment partie de ce que nous traversons. Dans Luc 14 au verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à ou n'aime pas moins son père à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Nous sommes tous passés par là. Lorsque j'étais conseillé en vue du baptême, j'étais plutôt jeune et je n'étais pas marié. Certaines de ces questions, je n'y avais pas réfléchi de cette manière. Mais quand j'ai commencé à y réfléchir, au fait que ma décision pourrait avoir des répercussions sur la vie de d'autres personnes, serais-je capable, pour moi-même, de le faire? Mais si je faisais ces choix, comment cela affecterait-il la vie si j'étais marié, de ma femme, de mon enfant, des autres membres de ma famille? Et j'ai dit au ministre qui me conseillait, je veux y réfléchir. Ce n'était pas parce que j'hésitais, c'était parce que j'ai pris conscience de ma propre nature humaine et que je me rendais compte que, d'une certaine manière, je céderais peut-être. Je pourrais me dire, eh bien, je ne veux pas faire de mal à l'autre personne. J'ai donc prié à ce sujet et j'y ai réfléchi. Puis finalement, la conclusion à laquelle Dieu m'a conduit, c'est que, par mes propres forces, je ne pourrais pas le faire. mais avec l'Esprit de Dieu, je voudrais être capable de prendre ces décisions. Il me faudrait vraiment le Saint-Esprit de Dieu et l'aide de Dieu pour y parvenir. Et dans mon esprit et dans mon cœur, je prendrais cette décision d'aimer Dieu avant tout. Mais j'aurais vraiment besoin de l'aide de Dieu et de son Esprit Saint pour y parvenir. Et j'ai été baptisé. Et le ministre a dit, c'est ce que je voulais voir. Si tu avais vraiment compris. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Et c'est toujours une décision difficile, mais c'est toujours la bonne décision. Celle que je continue à prendre et que vous prenez également. Mais encore une fois, cela nécessite l'aide de l'Esprit de Dieu. Quels seront les points tournants ou les jalons de nos vies à venir? Bon nombre d'entre vous en ont déjà traversé beaucoup. Certains d'entre vous ne font que commencer. Ces moments viendront d'ailleurs. On ne peut pas y échapper. Ils viendront. S'agira-t-il donc de l'obtention d'un baccalauréat ou d'un diplôme universitaire, ou bien ces événements sont-ils déjà derrière vous? S'agira-t-il d'un changement de travail? S'agira-t-il pour certains d'un véritable appel de Dieu? S'agira-t-il d'un mariage? S'agira-t-il de la naissance d'un enfant? S'agira-t-il d'une tentation très forte ou d'une épreuve? S'agira-t-il du décès d'un être cher? S'agira-t-il de votre relation avec l'Église de Dieu? Rester ou partir? Quel que soit l'événement, la manière dont vous choisirez de le gérer pourra conduire à un changement de cap très positif dans votre vie. Là encore, une très bonne issue. Vous vous entraînez sur une voie mauvaise aux conséquences désastreuses. Revenons à Ecclésiaste 12. Ecclésiaste chapitre 12. Juste quelques extraits de ce passage. Verset 3. Donc pour ceux qui sont plus jeunes, voici ce que Dieu veut que vous choisissiez. Comment allez-vous aborder les jalons de votre vie? Verset 3. Souviens-toi de ton Créateur. Verset 3 d'Ecclésiaste 12. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Telle est l'instruction de Dieu. Ensuite, il dit, verset 3, « Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, « Je n'y prends point de plaisir », en parlant de la vieillesse. » Et ce n'est qu'une affirmation générale. Mais je pense que même la plupart d'entre nous, qui sommes plus âgés, trouvent du plaisir dans la vie et dans nos journées. Mais pour les jeunes, c'est ce que Dieu dit. Des points tournants vont se présenter. Souviens-toi de ton Créateur. C'est la voie que tu dois suivre. C'est la voie que tu veux choisir et sur laquelle tu veux rester. Encore une fois, souviens-toi de ton Créateur. Puis au verset 8, avant que le cordon d'argent se détache. Là encore, une référence à la vieillesse. En d'autres termes, prends dès ta jeunesse les bonnes décisions et fais-le avant d'être trop âgé. Ainsi, si tu restes sur le bon chemin, tu n'auras pas à faire face à certains des problèmes, des difficultés ou des épreuves auxquelles les personnes âgées sont confrontées. C'est là l'encouragement et l'enseignement de Dieu. Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, si vous êtes jeune, commencez à faire des choix judicieux. Espérons que vous soyez déjà sur cette voie. Si vous êtes vieux et décrépit, une personne âgée, commencez au moins là où vous en êtes. Commencez là où vous en êtes. Et alors, il y aura une bonne conclusion. Deutéronome 30, s'il vous plaît. Encore quelques passages bibliques ici. Reportons-nous Deutéronome 30, verset 19. Un passage très familier, je pense, pour la plupart d'entre nous. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Différentes conséquences selon ce que vous faites, selon ce que vous choisissez. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et nous pouvons même y ajouter quelque chose, de la bonne manière, je pense. En d'autres termes, regardez la vie. Regardez autour de vous. Observez l'expérience des êtres humains, des nations et des familles. Que voyez-vous? Encore une fois, comme Dieu le dirait, regardez cela. J'en prends le ciel et la terre à témoin. Faites ce qui est juste, afin d'en tirer les bonnes conséquences. Reportons-nous à Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Dans le mode de vie de Dieu, il y aura des difficultés, des épreuves et du stress. Je ne vais pas vous mentir à ce sujet. Je pense que beaucoup d'entre nous ici ont traversé beaucoup d'épreuves. Mais Jean 10, 10, quel est le but ultime? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Réalisez-vous que parfois cela se produit même dans cette vie? Parfois nous devons attendre le monde à venir. Mais Dieu désire, c'est son désir. Lorsque nous sommes confrontés à des points tournants, lorsque nous faisons face à la vie, nous continuons à choisir le chemin qui mène aux bénédictions dans la vie. Je voudrais donc vous laisser avec deux questions à vous poser lorsque vous faites face à la vie. Premièrement, où mèneront mon choix ou mes choix? Où aboutiront-ils? La deuxième, le résultat final de ce choix, est-il celui que Dieu veut pour moi? Ce résultat final sera-t-il celui qui mènera, en fin de compte, à la vie et aux bénédictions?